Territoires d'Info, une revue hebdomadaire de l'actualité des assemblées territoriales et municipales des territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. Territoires d'Info par Thomas Etier.
Bonjour, ici Thomas Etier, journaliste IJL. Bienvenue à Territoires d'Info. Voici ce qui a retenu notre attention cette semaine sur les territoires. La modification des lois régissant l'industrie du gaz et du pétrole au TNO est en branle. Mais est-ce trop tard? J'en ai discuté avec la ministre de l'Industrie, du Tourisme et de l'Investissement, Catherine Arnaud-Colby, ainsi qu'avec l'analyste énergétique Doug Matthews. Ottawa annonçait le 9 août, dans le cadre de la Journée internationale des populations autochtones, l'octroi d'un montant de 5 millions de dollars pour appuyer les entreprises autochtones des territoires. J'en ai discuté avec le député fédéral des TNO, Michael McLeod. La commission scolaire francophone des TNO dévoilait cette semaine son plan de retour à l'école pour l'année 2020-2021. La possible ouverture d'un centre de jour temporaire pour les sans-abri de Yellowknife au centre-ville provoquerait une certaine inquiétude chez les commerçants et résidents du secteur. Parc TNO met en garde les baigneurs de la plage de Hay River contre la dermatite du nageur. Et finalement, on vous présente un entretien avec le sergent Alexandre Laporte qui vient de quitter ses quartiers de Yellowknife pour s'installer à Ottawa. On vous en parlait la semaine dernière, c'est maintenant officiel. Le public aura désormais accès à la vaste majorité des renseignements que les entreprises d'extraction pétrolière et gazière sont tenues par la loi de divulguer au GTNO ou encore à l'organisme de réglementation des opérations pétrolières et gazières. C'est ce qu'imposent les nouvelles lois qui régissent les activités pétrolières et gazières conçues par le GTNO et entrées en vigueur le 23 juillet. Mais 6 ans après la dévolution de la responsabilité des terres au gouvernement territorial, certains se demandent si ces changements surviennent trop tard, puisque ce secteur en déclin pourrait ne plus en avoir pour longtemps. Désormais, lorsqu'une fracturation hydraulique sera effectuée sur un lieu d'extraction, toutes les informations entourant l'opération, et ceci incluant les ingrédients qui composent le fluide injecté, le lieu et la date de l'opération, la profondeur du forage, la quantité d'eau injectée, devront être divulguées au public dans les 30 jours suivant la fin des activités d'extraction. Mais cette nouvelle réglementation, tout comme les efforts de promotion de l'industrie pétrolière et gazière faits par le GTNO, intervient en fait à un moment charnière pour ces secteurs. Certains prévoient un départ définitif prochain des investisseurs. Mais pour sa part, la ministre de l'Industrie, du Tourisme et de l'Investissement, Catherine Arnaud-Colby, affiche une pleine confiance en l'avenir de l'industrie du pétrole et du gaz au TNO.
We actually feel that there's quite an exciting future in our oil and gas for the Northwest Territories, not only from a sustainability for our self or self-reliance perspective, but also from an export perspective.
Catherine Arnaud-Colby indique ici que le GTNO est très enthousiaste quant au futur de l'industrie du pétrole et du gaz au TNO, et pas seulement d'un point de vue local, mais aussi pour l'exportation. En 2014, le GTNO obtenait du fédéral la responsabilité des terres et donc l'administration des activités pétrolières et gazières du territoire. Depuis, il appartient aux élus du territoire de redéfinir les paramètres du régime hérité du fédéral.
We need to have modernization of our acts and our regulations so that we are more competitive globally and domestically with other jurisdictions in Canada. So that we can have investment post-COVID in our resource sector. I think COVID has just highlighted the dependency of Canada on our resource sector, and we do need to have that going after COVID. It is our main GDP driver. So I'm really invested in moving this sector forward.
La ministre Catherine Arnaud-Colby indique que le territoire a besoin de moderniser ses lois et réglementations dans le but d'être plus compétitif sur le plan mondial, mais aussi au sein du Canada. Aux yeux de l'analyste énergétique Doug Matthews, bien qu'il soit souhaitable que le GTNO puisse enfin définir ses réglementations pour l'industrie du gaz et du pétrole, ces efforts risquent de servir une industrie vouée à disparaître.
Well, I think number one, the big advantage is it was a regime that was developed in the Northwest Territories, as opposed to one that was developed in Ottawa. So that's a step in the right direction. I would think that much of this legislation does help to improve the situation somewhat. it's rather like coming up with new regulations for the buggy whip industry. Nobody's coming north. Yeah.
Uh-huh.
They're not coming. And I don't think we're going to see industry coming north possibly ever again.
L'analyste énergétique Doug Matthews indique que l'avantage de ces nouvelles règles, c'est qu'elles ont été développées au TNO et non pas à Ottawa, comme c'était le cas avant 2014. C'est un pas dans la bonne direction, mais ça revient un peu à mettre en œuvre de nouvelles lois pour une industrie moribonde, selon lui. Il indique ne pas croire qu'on va voir des compagnies extractrices de pétrole et de gaz revenir dans le Nord. Ça n'arrivera probablement jamais. Selon les données du Bureau des statistiques des TNO, la production de gaz naturel suit une pente descendante depuis 2002. La production était alors, en 2002, de 1197 millions de mètres cubes. En 2019, elle atteignait 72 millions de mètres cubes. La production de pétrole a pour sa part chuté de moitié depuis 2014, en passant de 405 792 milliers de mètres cubes à 200 354 milliers de mètres cubes en 2019. Le déclin du secteur gazier a pris un tournant décisif, par exemple avec l'abandon du projet gazier du Mackenzie en 2017. Le mégaprojet de pipeline entre le delta du Mackenzie et l'Alberta, au coût estimé de 16 milliards de dollars, a été abandonné par ses promoteurs. On indiquait alors qu'un tel projet n'était plus justifié en raison des prix du gaz naturel. Doug Matthews, qui s'intéresse depuis de nombreuses années au secteur gazier des TNO, explique cette situation en partie par la compétition féroce d'autres sources de combustibles fossiles. On parle également de la fracturation hydraulique ainsi qu'une transition vers une économie de sources d'énergie alternatives. Mais selon lui, la COVID-19 pourrait également avoir un impact sur le futur de l'industrie.
And, you know, we've seen quite a demand destruction as a result of the COVID-19 impact. And I'm not sure that all of that demand will come back at, you know, once the virus is put under control. So I'm not terribly optimistic, I'm afraid, that we will see industry returning to the NWT.
Doug Matthews indique ici que la COVID-19 a provoqué une importante chute de la demande, qu'il n'est pas certain que toute cette demande va revenir une fois le virus sous contrôle. Il se dit malheureusement pas très optimiste quant au retour d'une telle industrie au TNO. C'est un point de vue que ne partage pas la ministre Nokolbe, qui fonde des espoirs sur un financement d'Ottawa au terme de la pandémie.
We need to have modernization of our acts and our regulations so that we are more competitive globally and domestically with other jurisdictions in Canada, so that we can have investment post-COVID in our resource sector. I think COVID has just highlighted the dependency of Canada on our resource sector, and we do need to have that going after COVID. It is our main GDP driver. So I'm really invested in moving this sector forward.
La ministre Katrina Nokolbe indique croire que COVID a mis en lumière la dépendance du Canada en son secteur des ressources et qu'il importe que nos activités d'extraction se poursuivent après COVID-19. C'est, selon elle, le principal devoir du ministère et elle se dit donc très investie dans l'évolution de ce secteur. Comme l'explique la ministre, la stratégie préconisée par le GTNO consiste à exporter le pétrole extrait de la région de Beaufort Delta pour cibler notamment les marchés asiatiques.
We're just going to have to see. Right now, everything is quite volatile on the global economy. So we will just make sure that if that does become favorable for us, then we would be ready to start exporting.
Katrina Nokolbe indique que tout est présentement très volatile sur le plan de l'économie mondiale, mais que son gouvernement va s'assurer d'être prêt à exporter si les choses redeviennent favorables. Pour sa part, Doug Matthews doute de l'utilité de ses efforts.
Well, I think it's part of the mandate for ITI to do that, and I'm not going to criticize them for doing that kind of work. I'm just saying that you may be, I'm not sure what the expression is in French, but in English we say pissing in the wind. You do wonder if the efforts, no matter how well intentioned, may ultimately be futile. That would be, I think, the more polite way of saying it. I don't fault them for trying to do it. I'm just saying that, you know, good luck with that.
Doug Matthews indique ici que faire la promotion de l'industrie du gaz et du pétrole fait partie du mandat du ministère, qu'il est donc normal qu'il fournisse ses efforts. Or, il se peut que ce soit un coup d'épée dans l'eau. Ses efforts, malgré toutes les bonnes intentions qui les sous-tendent, pourraient ultimement être vains. C'est dimanche dernier, 9 août, qu'avait lieu la Journée internationale des populations autochtones. Le gouvernement fédéral en a profité pour annoncer l'octroi d'un fonds de 40 millions de dollars qui servira à appuyer des projets menés par des entrepreneurs de collectivités autochtones. 11 projets en tout se partageront un total de 5 millions de dollars sur les trois territoires. Au TNO, c'est 1,9 million de dollars qui a été accordé, qui servira notamment au développement de la mine Giant. Quel est donc le poids de cette initiative et quelle influence aura ce financement sur l'avenir des collectivités qui devront bénéficier des projets sélectionnés au territoire du Nord-Ouest comme ailleurs dans le Nord? J'en ai discuté avec le député libéral des territoires du Nord-Ouest, Michael McLeod. Si, selon lui et selon son gouvernement, la priorité demeure la sécurité des résidents face à la pandémie, il n'y en demeure pas moins qu'un plan de relance devra être mis en branle. Pour l'instant, l'argent injecté par Ottawa dans le Nord représente un appui important, quoique modeste à ses yeux.
I think it's a very small gesture towards supporting Indigenous companies. I think there's a lot of work to be done on the Indigenous agenda. We had made some very large commitments to support a lot of the initiatives, a lot of the work that many organizations, many Indigenous governments had been working on.
Le député fédéral des territoires du Nord-Ouest, Michael McLeod, indique que ce geste, l'octroi d'1,9 million de dollars au TNO, est relativement très modeste pour appuyer les entreprises autochtones. Il indique qu'il reste beaucoup de travail à faire dans le dossier des affaires autochtones. Son gouvernement a pris de grands engagements pour appuyer beaucoup d'initiatives. Il reste donc beaucoup de choses à accomplir, selon lui. Cet argent appuiera des projets qui font la promotion du développement économique durable des collectivités, comme l'explique M. McLeod, ce qui améliorera le développement de futures entreprises et la croissance de ces collectivités. Sur ce plan, il reste, selon lui, beaucoup de travail à faire et COVID-19 n'aide évidemment en rien.
There's many, many projects. In the last 4 years, I think I've announced well over $3 billion in projects and initiatives and investment. And not all of them have been delivered. Not all of them have been started yet. So we'd like to get those going. And that's the reality right across the country. And we need to start working on a recovery plan. And we also need to start focusing on a stimulus spending priority list.
Monsieur McLeod annonce qu'énormément de projets ont été annoncés dans les 4 dernières années. Il a lui-même annoncé, selon lui, beaucoup plus que 3 milliards en investissements. Ces projets n'ont pas tous commencé. Il dit souhaiter qu'ils aillent de l'avant. C'est d'ailleurs la réalité partout au pays, selon lui. On doit commencer à travailler sur un plan de reprise économique. Et les dépenses liées à la stimulation de l'économie doivent être une priorité, toujours selon Monsieur McLeod, qui dit croire que dans le Nord, le logement demeure une priorité et devrait le rester. Pour l'instant, des réponses demeurent en suspens. L'annonce du budget fédéral prévu pour le 31 mars 2020 a dû être reportée en raison de la pandémie. Michael McLeod fonde de grandes attentes et dit espérer que ce budget verra à la croissance des collectivités du Nord.
But circumstances have changed. The fiscal reality has changed. So I think there's really going to be a lot of discussion as time goes on for the next budget that I'm not sure when that will be. It'll have to be on what projects will be good for the economy, what will stimulate the economy, what will create jobs, and that's probably going to be the focus. So stimulus spending will be something that is in the next budget, I expect. I can't say 100%, but that's what I would expect.
Michael McLeod rappelle que beaucoup de choses ont changé avec la pandémie. On s'attendait à plusieurs bonnes choses de ce budget qui devait être annoncé le 31 mars. Les circonstances ont changé, tout comme la réalité fiscale. Selon lui, il y aura beaucoup de discussions avec le temps pour déterminer le prochain budget. Ça devra porter à ses yeux sur les projets qui seront des projets qui seront bons pour la relance économique, qui vont stimuler l'économie, créer des emplois. Selon lui, ce sera un point important du prochain budget. Il affirme qu'il n'en est pas certain à 100%, mais qu'il fonde de grandes attentes à ce propos. Un centre de jour temporaire pourrait bientôt être mis sur pied au centre-ville de Yellowknife, sur la 50e avenue, dans le but de répondre aux besoins de la population de personnes sans-abri à l'approche du temps froid. Ce centre temporaire répondrait ainsi aux besoins du centre permanent qui est actuellement également situé au centre-ville, mais dont la capacité a dû être réduite afin de répondre aux règles de santé publique, aux règles d'éloignement physique. Ce plan qui a été présenté par le ministère de la Santé et des Services sociaux doit d'abord être approuvé par le conseil municipal. Une rencontre du conseil municipal qui se tenait le 10 août a mis en lumière plusieurs questionnements et appréhensions partagés par certains conseillers qui craignent les défis que pourrait provoquer l'affluence d'usagers de ce centre de jour pour les commerces avoisinants. Ce local, qui est en fait un ancien centre d'accueil pour les jeunes, a été déterminé comme étant le lieu parfait pour y installer un centre de jour. Comme l'explique la directrice du bien-être en santé mentale au ministère, Sarah Chorotowski.
I think that we have an obligation to support this population. I think they're members of our community. I think there's a fair amount of stigma that does exist around this population, and I think some of that is with good reason. But at the end of the day, I think that, you know, we need to work with the neighbors. This is only a temporary thing. This is not a permanent location for this facility.
Sarah Chorotowski, directrice du bien-être en santé mentale pour le ministère de la Santé et des Services sociaux, affirme que selon elle, nous avons l'obligation d'appuyer cette population de personnes itinérantes qui sont en fait des membres de notre collectivité et qui portent en eux, pour toutes sortes de raisons, plusieurs stigmates. Elle convient que le ministère aura besoin de travailler avec les voisins, avec les entreprises environnantes qui devront comprendre par ailleurs que ce centre ne sera pas permanent. Il s'agit bien d'un centre de jour temporaire. Cette intervention de Mme Chorotowski faisait suite aux appréhensions exprimées par le conseiller Neil Kanga, qui rapporte les inquiétudes de commerçants liées à la présence des usagers de ce centre de jour. M. Kanga appréhende certains incidents dont auraient été victimes les propriétaires voisins du centre de jour permanent actuel. Ce dernier exige notamment que le conseil municipal ait le pouvoir de faire fermer ce centre temporaire à 7 jours d'avis dans l'éventualité où le comportement des usagers ne respecterait pas les critères de bon voisinage préétablis.
At this point, based on what I've seen, it's a flat no. There's nothing there that tells me it's going to be any better than what is currently happening in the city, and I am not prepared to allow a decision of council to ruin another block of Yellowknife.
Le conseiller Niels Kanga indique qu'à ce stade-ci, il refuse, c'est un non pour lui en regard du plan qui lui a été soumis. Il dit ne pas être prêt à prendre une décision qui irait ruiner un autre secteur de Yellowknife. À ses yeux et selon ce que lui auraient confié les propriétaires du secteur où se trouve le centre de jour actuel, le centre permanent, l'accueil d'un grand nombre d'usagers dans le secteur aurait provoqué une situation qu'il décrit comme catastrophique.
That you're going to have people going there, they're going to need to have naps, and they're going to need to have food, and they're going to be able to play games, and that's all fine and wonderful, but it's a failure for the neighborhood. I'm pretty happy I don't own any real estate on that street in like right beside, because, you know, as council, we've heard from neighbors in that area multiple times. They spent thousands and thousands and thousands of dollars in security cameras. They've had their tenants be assaulted verbally, physically.
Niels Kanga indique ici que certains propriétaires du voisinage ont dépensé des milliers de dollars en caméras de surveillance, que des locataires ont subi des insultes, qu'il y a eu des bagarres importantes. Bref, il indique qu'on a fait l'expérience ailleurs et qu'à ses yeux, ça n'a pas marché. De son point de vue, il s'agit d'un échec. Il souhaite que le GTNO fournisse suffisamment d'informations pour que l'on puisse déterminer si la mise sur pied de ce centre de jour permanent sera possible. Sarah Chorotowski a indiqué qu'une patrouille sera déployée dans le secteur pour assurer que l'affluence d'usagers ne provoque pas de situation à problème. Une clôture sera également érigée autour du nouveau centre. Madame Chorotowski a également souligné de grandes améliorations dans la cohabitation entre le résident, les commerçants et usagers du secteur abritant le centre de jour actuel. La conseillère Stacey Smith a souligné les potentiels enjeux que pourraient connaître les PME du secteur déjà affectés par la crise pandémique.
One of our jobs as council is also ensuring that our small businesses thrive. And because of COVID, we've had a lot of small businesses that have really been struggling. And this decision that we're going to be making is also going to affect small businesses in the downtown. And it really kind of leaves a bad taste in people's mouths. So I would like to see from the GNWT how this is going to affect small businesses.
La conseillère Stacey Smith indique que comme conseillère, elle doit s'assurer que nos petites entreprises s'en sortent. Cette décision d'intégrer un nouveau centre de jour pourrait donc générer plusieurs préoccupations du côté des PME environnantes.
You know, we get that. We understand that this is a program that nobody wants in their backyard, you know, and no matter where it is, there are going to be neighbors and there are going to be businesses and residents that are going to be impacted by the presence of this type of program. So, you know, I don't know that we need to investigate it. I think we know that there's going to be an impact. We know that, you know, businesses might not be happy, but I think that's where we will be working to cultivate relationships with those businesses, to meet with them, to hear with them, to communicate with them and build that relationship to understand what we can do to mitigate the impacts for them.
On entend ici la réponse de la directrice du bien-être en santé mentale au ministère de la Santé et des Services sociaux, Sarah Chorotowski, qui dit qu'on sait au ministère que ce type de programme, que personne ne veut ce type de programme dans sa cour. Des entreprises ne seront évidemment pas en accord, selon elle, mais elle souhaite cultiver la communication, construire de bonnes relations et voir à limiter les impacts potentiels. Un débat sur l'adoption de ce projet de centre de jour temporaire doit avoir lieu lundi prochain, 17 août, lors d'une rencontre du conseil municipal de Yellowknife. Après 12 années de service à Yellowknife, le commandant du détachement de la GRC, l'inspecteur Alexandre Laporte, quitte ses quartiers ténois pour Ottawa. Dans un entretien accordé à mon collègue Baptiste Foisy de l'émission Bonjour là, Alexandre Laporte revient sur différents moments de sa carrière et de cette belle aventure dans le Nord. L'inspecteur dit partir sans regret avec le sentiment du devoir accompli. Je vous propose d'écouter un extrait de cette entrevue réalisée par Baptiste Foisy.
Bonjour, inspecteur Laporte.
Bon matin, Baptiste. Merci de l'opportunité. C'est toujours un plaisir.
Bien, d'abord, on va commencer par cette histoire-là. Vous nous quittez, inspecteur Laporte?
Bien,
où est-ce que vous en allez?
C'est difficile, hein? C'est difficile à dire encore. Je ne suis pas habitué à le dire. C'est une décision qui n'a pas été facile pour moi et ma famille. Après presque 12 ans ici au territoire du Nord-Ouest, particulièrement ici à Yellowknife, d'aller vers des nouveaux chemins, des nouvelles aventures, se rapprocher de la famille. La GRC m'a muté au quartier général national à Ottawa, dans une position un peu plus corporative. Ça fait presque 18 ans que je suis nouveau opérationnel. Fait qu'on va aller, faire des expériences différentes là-bas pour moi de mon côté. Moi, je suis arrivé en 2008 comme un enquêteur à la section des drogues. Ensuite de ça, fait que j'ai fait les nuits puis les coins de rue ici à Yonnet puis dans les autres communautés. Le poste de commandant du détachement, j'ai commencé ça en 2018. En 2017, je suis descendu du deuxième étage au quartier général dans les fonctions que j'avais à ce moment-là pour prendre le rôle de gérant des opérations au détachement. Puis lorsque l'inspecteur Pex a quitté en 2018, j'ai été promu au poste de commandant. Évidemment, écoute, moi, j'ai des réflexions là, qui me passent ici et là depuis les dernières semaines. J'ai vu la plupart des communautés des territoires du Nord-Ouest. J'ai passé du temps à faire de la relève sur l'île d'Oldman, à Olotuk. J'ai voyagé à Inuvik, j'ai fait le Dempster Highway. J'ai juste une belle aventure.
Sur le plan de la carrière, justement, on voit beaucoup d'agents de police qui viennent ici, souvent en début de carrière. Vous êtes arrivé ici, vous n'étiez pas en début de carrière et vous avez choisi de rester. Qu'est-ce qui vous a fait rester dans le Nord pendant plus de 10 ans?
Baptiste, les gens. Mm-hmm. Les gens. À la fin de la journée, c'est les gens. Et écoute, de pouvoir partager autant qu'on est loin de nos familles puis des gens qui nous ont vus grandir puis nous ont supportés. On arrive dans une communauté comme ici, puis on se fait un cercle d'amis qui devient très intense. On passe Noël ensemble, on passe le Pâques ensemble, on passe les étés ensemble. Les amitiés sont très, très intenses, puis c'est la richesse. Ça a été la richesse pour nous, ces amitiés-là, de nous garder ici si longtemps. Le travail est une chose, mais c'est les gens.
Mais au point de vue policier, ça doit pas être toujours facile. Dans le Nord, il semble qu'on a un taux de criminalité qui est peut-être plus élevé qu'ailleurs au pays. C'est quoi l'ampleur de la tâche policière dans le Nord?
Bien, écoute, la tâche est importante. La tâche est importante, puis on l'a discuté. Mon positionnement depuis plusieurs années est le même. Et c'est mon message de départ également. Oui, la tâche est importante, mais il ne faut pas oublier que Yellowknife et les communautés, là, ce sont des belles communautés vibrantes qui sont quand même sécuritaires. On a des problèmes sociaux. On a des problèmes sociaux qui sont généralement liés au traumatisme vécu par les gens, problèmes de consommation d'alcool et de drogue, la violence domestique. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de tâches à faire. Comme policier, oui, c'est ardu d'intervenir tous les jours dans ces crises-là. Par contre, on voit le momentum depuis plusieurs années ici. Je te dirais les 4-5 dernières années que moi, j'ai eu l'expérience de faire pour ouvrir des... recevoir les fonds, faire les demandes de fonds pour pouvoir ouvrir des services. Le centre de jour, ici, évidemment, offre des services qui n'existaient pas avant. On a le service de rue.
Avez-vous l'impression que ça s'est amélioré, qu'on va s'en sortir de ces problèmes sociaux-là?
Ben moi, je pense qu'on est sur la bonne route. De ce que j'ai vu et vécu, la qualité des gens qui s'impliquent ici pour faire une différence est incroyable. Moi, je pense que c'est sur la bonne route. Ça ne peut pas lâcher. Le momentum ne peut pas diminuer. Puis, sans aucun doute, mon successeur va continuer dans la même veine que nous, au niveau que la police a un mandat. Moi, j'ai toujours cru que le public doit espérer de sa police qu'ils soient les meilleurs à intervenir lorsque la sécurité de quelqu'un est en danger. Ça, c'est notre priorité.
Est-ce qu'il y a une enquête ou un dossier qui a été marquant pendant toutes ces années dans le Nord?
Écoute, le projet Green Malachi en 2016...
Ça, c'était une opération antidrogue.
Oui, j'étais dans le poste de commandant de l'enquête à ce moment-là. Ça a eu un gros impact. Ça a été très complexe. Bel impact. Beaucoup de gens ont été affectés positivement et les gens ont été reconnus coupables des infractions. Moi, je quitte avec, sans regret, mais je quitte avec un certain devoir, ce feeling-là du devoir accompli.
Je peux pas faire autrement de vous poser la question. Dans les dernières semaines, dans les dernières années même, le corps policier qui est le vôtre, la Gendarmerie royale du Canada, a été beaucoup interpellé sur des questions d'enjeux sociaux. En ce moment, il y a un recours collectif qui est en train de se préparer parce qu'on dit qu'il y aurait peut-être du profilage qui serait fait. Bon, évidemment, la justice nous le dira, là, s'il y en a du profilage ou pas. Mais avez-vous l'impression que le public, et le public dans le Nord particulièrement, a toujours confiance en ces services policiers?
Moi, c'est le message que j'ai reçu. C'est le message que j'ai reçu puis que je reçois. Dans mon engagement communautaire, dans mes interactions personnelles, le support ici à Yellowknife est phénoménal. Oui, il y a des événements qui affectent des gens, puis la police est impliquée qui ne sont pas nécessairement des succès ou des choses qu'on voudrait voir. Mais nous, c'est important d'écouter, c'est important d'apprendre. Et puis, c'est ce qu'on continue à faire, puis c'est ce qu'on continue à faire. Notre histoire, l'histoire de la GRC de presque 150 ans maintenant n'est pas parfaite. Le futur ne sera pas parfait. Les interventions policières ne peuvent pas être parfaites. Mais lorsqu'on considère que notre commissaire national, lorsqu'elle a sorti les statistiques, moins de 1% des contacts avec les gens du public où le policier doit avoir recours à la force, c'est moins de... Ça nous dit qu'il y a plus que 99% du temps, c'est des contacts qui sont favorables ou positifs. Fait qu'on doit continuer à bâtir là-dessus. La confiance du public est très, très, très importante dans la livraison de nos services. Et ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Parce que les policiers aussi doivent comprendre que les gens leur font confiance dans leur travail de professionnel. Et puis, comme j'ai dit à la ville la semaine passée, continuez, les gens de Yellowknife, continuez à prendre soin de vos membres de la GRC. Ils viennent ici pour garder la communauté sécuritaire. Ils s'impliquent dans la communauté. Et plusieurs d'entre eux sont des instructeurs, des coachs, des mentors au niveau de la communauté. Continuez à prendre soin d'eux. Ils vont continuer à prendre soin de nous.
C'était l'inspecteur Alexandre Laporte qui était jusqu'à tout récemment le commandant du détachement de la GRC à Yellowknife. La rentrée approche et la Commission scolaire francophone des TNO présentait cette semaine son plan de retour à l'école pour l'année 2020-2021, un plan évidemment qui a été élaboré autour de COVID-19. En plus de prioriser la sécurité, la CSFTNO entend mettre de côté l'école à la maison et maximiser l'apprentissage en présentiel, c'est-à-dire en classe. L'école à temps plein est donc préconisée de la maternelle à la 12e année. Il y aura toutefois des possibilités d'école à distance en maintenant des contacts réguliers avec les élèves qui ne peuvent pas aller à l'école en personne. Les élèves de prématernelle à 6e année n'auront pas à respecter d'éloignement physique en classe, pour autant qu'ils demeurent dans leur bulle de classe. À l'extérieur, le masque pourrait être exigé si la distance requise ne peut être respectée. Les plus vieux de 7e à 12e année devront garder une distance de 1 à 2 mètres en classe. On note que tout peut changer en fonction de la pandémie. Les écoles de la Commission scolaire francophone indiquent qu'elles demeureront flexibles et se préparent à passer de l'école en personne à l'école à distance ou mixte en tout temps. Le plan contient une liste des mesures de sécurité resserrées. Entre autres, les établissements verront à éviter les rassemblements en échelonnant les heures d'arrivée et de départ des élèves. Des changements seront également apportés aux horaires du transport en autobus. Les élèves devront y porter leur masque. Pour leur part, les enseignants et le personnel devront porter des écrans faciaux. L'école boréale de Hay River et l'école Alain-Saint-Cyr de Yellowknife partageront leur plan spécifique avec les familles d'ici le 17 août. Et si la tendance se maintient, les élèves retourneront en classe le 31 août. Et voilà, c'est tout pour Territoire d'Info. Je suis Thomas Etier, journaliste de l'Initiative du journalisme local. Je vous souhaite une excellente fin de journée.
Territoire d'Info vous a été présenté grâce à la généreuse contribution du Fonds canadien de la radio communautaire.